Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Faut-il vraiment présenter Guislain de Diesbach, romancier, historien? Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages et notamment de biographies consacrées à Marthe Bibesco, à l'abbé Mugnier ou bien encore à Marcel Proust. Cette dernière étude lui avait valu de recevoir le grand prix de la biographie de l'Académie française en 1992. C'est aujourd'hui pour un livre d'un genre différent que nous le recevons au studio de Canal Académie, pour un recueil de portraits intitulé « Le goût d'autrui », dans lequel Guislain de Diesbach s'essaye avec bonheur à un genre très français et se fait même moraliste à la manière des hommes de plume du XVIIe siècle. Guislain de Diesbach, bonjour.
Bonjour, cher monsieur.
Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de feuilleter ce livre qu'on lit avec bonheur, comment est né ce recueil? Parce qu'on sent bien, à travers les personnes que vous présentez, qu'il y a des périodes extrêmement différentes et des situations dans lesquelles se sont faites les rencontres qui sont elles-mêmes très différentes.
Oui, je dois dire que c'est un devoir de reconnaissance envers les auteurs qui m'ont précédé et qui ont laissé des souvenirs et des portraits. Car quand on est biographe, on fait des biographies, surtout que j'ai toujours essayé de faire des biographies de sujets inédits ou peu connus et de trouver du nouveau. Eh bien, ce sont dans les correspondances, les souvenirs que l'on trouve justement les matériaux dont on a besoin. Et j'ai une trop grande dette envers mes prédécesseurs pour ne pas laisser à mon tour un témoignage qui sera utile à d'autres biographes. Il est certain que dans le futur, où il n'y a plus de correspondance maintenant, il y a encore des journaux intimes, heureusement, mais il n'y a plus les correspondances qu'il y avait autrefois, les longs échanges épistolaires, on pourra trouver dans ce livre beaucoup d'indications biographiques.
Oui, on sent que l'historien que vous êtes, effectivement, a eu le souci de transmettre à la génération qui suit des matériaux qui viendront nourrir ou permettre de rajouter sur la palette de couleurs dont dispose l'historien des petites touches impressionnistes grâce à ces portraits qui rendent des gens toujours très attachants, mais plus vivants encore.
Par exemple, l'autre jour, je lisais une biographie de quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui figure dans mon livre. La biographie est très intéressante au point de vue politique. Il n'y a pas un trait humain, il n'y a pas une anecdote, il n'y a rien pour montrer le personnage qui a défrayé la chronique, qui a été quelqu'un de très célèbre comme journaliste, comme essayiste, mais il n'y a pas de trait le montrant dans son intimité, le montrant tel qu'il était physiquement et intellectuellement. Donc ce sont des biographies un peu grises. Il faut des traits d'humanité ou d'inhumanité au besoin. Mais il faut quelque chose qui fasse vivre le personnage.
Vous voulez dire qu'on fait de plus en plus de ces biographies très volumineuses avec beaucoup de notes de bas de page, très scientifiques, la méthode est très rigoureuse, mais ça n'est pas habité en fait.
Je me rappelle avoir lu une traduction d'un ouvrage américain sur Gyp. Gyp a été une romancière extrêmement connue entre 1880 et 1930. Et ses romans sont très amusants, elle est l'auteur notamment du fameux Mariage de chiffon. Il n'y avait pas un trait, pas une anecdote, alors qu'elle a écrit elle-même des souvenirs merveilleux, où c'est rempli d'anecdotes, eh bien le personnage apparaissait uniquement comme une espèce de marionnette politique, oscillant au gré des factions, des querelles, notamment l'affaire Dreyfus, et après les affaires de la Troisième République, après 14. Mais le personnage tellement spirituel et amusant de Gyp n'apparaissait pas.
Alors c'est peut-être ça qui vous a amené à choisir ce titre, ce goût d'autrui, c'est quelque chose qui vous a toujours animé.
Je me suis toujours intéressé dès mon plus jeune âge aux autres. En général, les hommes sont toujours très égocentriques et égoïstes. Moi, je suis très égoïste comme tous les hommes, bien sûr, mais je ne suis pas égocentrique et je m'intéresse passionnément aux autres. Et j'ai commencé, quand j'étais jeune, à interroger les gens qui avaient vécu, par exemple, sous le Second Empire ou le début de la Troisième République. Et petit à petit, je me suis intéressé à la mentalité des gens et à des traits de caractère qui les distinguent des autres. J'aime les originaux. C'est pour ça que dans ce recueil, par exemple, il y a le portrait d'un jeune gangster. Bon, eh ben, le jeune gangster, évidemment, il n'a aucun titre à la postérité, mais le personnage était tellement curieux et amusant, je l'ai vu que deux fois dans ma vie, mais j'avais eu beaucoup d'anecdotes qu'on me racontait sur lui et j'ai trouvé que c'était quand même un type de la société actuelle.
Alors, vous avez commencé à effeuiller pour nous ce livre, non pas de souvenirs, mais de portraits. On est entre gens de bonne compagnie, dans ce livre, parce que grâce à vous, on voisine avec Paul Morand, avec le duc de Castres, avec donc quelques académiciens, mais aussi avec de grands écrivains. On pense à Ernst Junger, à Jules Romain, Jacques Chardonne, la baronne Blixen, Louise de Villemorin, les Jouandeau, je ne peux pas tous les citer. Et puis effectivement, des gens entre guillemets un peu à côté, oui, franchement à côté, comme ce Nourdine, ce gangster, qui parle un français impayable et qui raconte des choses qui sont très pittoresques.
C'est amusant.
Il y a cette anecdote, par exemple, il est gangster, en fait, ce monsieur.
Il remplit honorablement sa fonction. Je raconte cette anecdote où il organise un hold-up dans une maison de retraite. Et alors, l'ami qui m'en parlait, qui l'aimait beaucoup, me disait « Il est très gentil, tu sais, Nourdine. L'autre jour, il a fait un hold-up dans une maison de retraite. Il a pris le sac d'une petite vieille et il l'a embrassé sur le front en lui disant « Merci, mémé ». Délicatesse extraordinaire.
Oui, alors on voit, vous aimez ces traits de caractère, effectivement, chez des gens connus ou non. Et effectivement, c'est cette mise en relief qui rend ce livre délicieux. Revenons peut-être à des gens plus connus du public et pour des raisons plus logiques. Par exemple, je pense à Jean-François Cap, qui a été un de vos amis, semble-t-il, un de vos grands amis, que les auditeurs connaissent bien, qui a été un historien et un journaliste qui a occupé longtemps la radio.
Et la télévision.
Et la télévision.
Oui, c'est ça qui l'a fait beaucoup connaître.
Alors justement, vous nous le présentez, vous qui avez eu la chance de le connaître longtemps et en tant qu'ami, vous nous le présentez sous un genre nouveau et vous le rendez effectivement très sympathique. C'est une espèce de dandy.
Mais c'était un personnage.
Un personnage,
La personnalité écrasait absolument toutes les autres facettes du personnage. L'historien, le journaliste, l'originalité du personnage. Par exemple, un jour, il faisait un temps comme aujourd'hui. Et alors, nous devions aller à la campagne chez sa femme. Il louait une villa chaque année pour que les chats puissent se purger en mangeant de l'herbe. Il y avait 5 chats. Alors, il faisait un temps merveilleux, un azur dans le ciel. Il me disait, allez à la campagne quand je pense qu'il fait si beau. Quel dommage.
Et alors, vous montrez quelqu'un qui a un appétit de la vie incroyable, qui n'est jamais fatigué, qui est toujours prêt à sortir.
Oh, une mémoire étonnante.
Une conversation
ayant connu tout le personnel, notamment de la Troisième République, il abondait en anecdotes. Et c'est pour ça que je le disais, écrivez des mémoires. Il faut que tout ça reste. J'ai noté beaucoup de ses histoires, mais il n'a jamais fait son livre de mémoire qu'il aurait dû faire, qui aurait été le plus intéressant, certainement.
Alors, vous venez de l'évoquer brièvement, c'est la question qu'on se pose quand on lit ce goût d'autrui. Comment faites-vous ? Est-ce que lorsque vous sortez d'un dîner, lorsque vous avez fait une rencontre dans le cadre d'un échange à la télévision ou à la radio, vous prenez des notes, vous tenez un journal, vous êtes ce qu'on appelle un diariste ?
Alors, Mathieu Gallet, par exemple,
qui est présent dans ce livre.
Comme l'abbé Munier, d'ailleurs, notait en sortant du dîner sur n'importe quoi un bout d'enveloppe. Au besoin, il aurait noté s'il en avait porté sur ses manchettes comme faisaient les étudiants pour le bac avant 14 pour faire des antisèches. Moi, au début, je notais sur le moment même. Et maintenant, je note 24 heures après.
C'est-à-dire
parce que certains éléments se décantent.
Voilà.
Et alors, j'ai une vision plus claire de ce que j'ai vu ou entendu. Et je note en général avec 24 heures de retard.
Donc, vous tenez un journal.
Je tiens un journal. J'ai beaucoup puisé dans mon journal pour faire ce livre, forcément.
Un journal que peut-être un jour on pourra lire.
Je voudrais bien.
Ah, nous le souhaitons tous. Alors, pour suivant cet almanach en restant du côté des hommes de lettres, il y a un portrait qui n'est pas le plus volumineux mais qui est riche en anecdotes aussi, qui est le portrait que vous consacrez à Jules Romain. Alors c'est ce qui
Alors,
est très surprenant.
Je ne l'ai pas connu parce que je me suis dit, non seulement il faut parler des gens qu'on a connus, mais quand on connaît des gens qui les ont connus et qui abondent en anecdotes, René Tavernier, pour ça, était un merveilleux conteur. Lui aussi, je l'avais encouragé à écrire des mémoires et puis il n'a jamais rien fait, la mort l'a surpris avant. Mais Tavernier racontait beaucoup d'histoires, notamment sur Jules Romain, je trouvais qu'elles étaient tellement pittoresques. J'en avais une ou deux qu'on m'avait racontées ailleurs, mais la plupart viennent de René Tavernier. Je trouvais qu'il fallait quand même consacrer ça. Ça montre un autre côté de Jules Romain.
Les petitesses des grands hommes. Il s'agit de petits péchés véniels, de petits défauts, la parcimonie.
La vanité.
Oui, la parcimonie aussi, visiblement. Oui. Mais ce sont des choses qui sont toujours très respectueuses et en tout cas très amusantes. Autre très beau portrait, celui que vous consacrez à Mathieu Gallet, qui est mort trop tôt.
Ah oui. Il a été d'un courage extraordinaire. Je l'ai très bien connu, Mathieu. Non seulement je l'ai bien connu, mais en plus, je l'assurais. J'étais son homme d'affaires pour toute la question assurance, donc j'avais souvent des rapports avec lui. Il m'a invité très souvent chez lui, et c'était un causeur. Il tenait un peu salon, il avait un cénacle littéraire. Quand il invitait des gens, c'était toujours intéressant.
Ça a été un très grand critique, un critique particulièrement féroce.
Oui. Et son journal. Son journal est féroce.
Tout à fait.
Mais intéressant. Alors là, voilà un journal qui aide les futurs biographes.
Oui,
ça, c'est le modèle du journal intéressant dans lequel on peut piocher.
Et alors, dans une époque assez consensuelle comme la nôtre, des témoignages comme ceux de Mathieu Gallet, effectivement, donnent du relief à des personnages que les biographes aujourd'hui présentent de manière beaucoup plus soft.
Quelquefois, nous assistions aux mêmes soirées et nous notions, et j'ai contrôlé dans mon journal, sur certains passages du journal de Mathieu Gallet, j'avais noté absolument les mêmes choses. Ces réflexions, ces dialogues avec certaines personnes un peu ridicules dont il se moquait, eh bien, c'est exactement ça. Je peux témoigner de la véracité. En revanche, ce qui m'a toujours frappé chez Mathieu Gallet, c'est qu'il voyait aussi les choses telles qu'elles auraient dû être. Et par exemple, il vient chez moi, quand j'habitais rue Vieille-du-Temple, je m'installais à Paris, je n'avais rien, et j'avais quelques vues d'optique de Paris vers 1830. Et il décrit mon appartement en disant « acajou luisant, argenterie étincelante, j'avais très peu d'argenterie, en plus elle n'était pas faite, je ne savais pas à l'époque que ça se faisait l'argenterie. Et portrait d'ancêtre naturellement, il n'y avait pas un seul portrait d'ancêtre chez moi. » Alors vous voyez, la valabilité du témoignage historique.
Oui, c'est ça qui est très amusant de lire, de comparer souvent les portraits d'événements ou les relations de dîner auxquelles on assistait en se disant « mais je n'ai pas vécu ça » et avoir le sentiment d'avoir vécu une chose tout à fait différente, effectivement.
C'est là où il faut rectifier.
Alors, vous avez croisé beaucoup de monde tout au long de votre vie, et il y a des portraits comme ça de gens dont on se dit mais ce sont des monuments, et dont on se dit mais finalement ils ont une existence très longue et nous ramènent à une autre époque. Ernst Jünger et Zola. Ernst Jünger, on oublie qu'il est mort centenaire.
Il est né en 1895. Ce qui est amusant de Jünger, c'est que quand il a eu 70 ans, j'ai trouvé ça très vieux. Je me suis dit, mon Dieu, il va mourir, il faut que je le connaisse avant de mourir. Et alors, il m'avait dit, venez me voir quand vous voulez. J'ai même pas attendu que l'invitation refroidisse. Je me suis précipité dans le train et je suis arrivé à Wilflingen un vendredi saint, je me rappelle, ayant voyagé toute la nuit. Et il a vécu après 35 ans, à peu près 33 ans.
Oui, puisqu'il est mort en 1998, plus que centenaire.
Oui, 33 ans. Et donc, moi j'étais persuadé que 70 ans, ça me paraissait un âge tellement vénérable qu'il fallait pas laisser passer l'occasion.
Alors comment se passaient ces rencontres entre un jeune homme et quelqu'un qui pouvait être un grand-père?
Oui, j'ai commencé ça très jeune, pendant la guerre à peu près. J'étais la providence des familles qui avaient un grand-père ennuyeux qui avait fait ou la guerre de 70 comme mobile ou la guerre de 14 et qui a semé sa famille avec ses récits de guerre. Et alors, j'aimais interroger les gens. Ils trouvaient en moi un auditeur, quelqu'un qui les écoutait avec passion et qui en redemandait. Alors, évidemment, j'étais réinvité. Ce qui fait que j'ai commencé à mener une vie mondaine assez amusante, dès mon plus jeune âge, parce que je m'intéressais justement à ces gens qui embêtaient leur entourage. Mais il y avait toujours quelque chose à prendre. Dans tous les récits, même de la guerre de 14, qui se ressemblent tous un peu, il y avait toujours une anecdote, il y avait toujours quelque chose de curieux.
Guylain de Diesbach, si vous le voulez bien, nous marquons une pause avant de continuer cette visite et cette galerie de portraits.
Il se situe à côté de Bordeaux. Le château de la Brède est le lieu où vécut Montesquieu. Retrouvez avec Olivia Battistello la magie d'un lieu d'exception ainsi que la vie du philosophe et académicien dans l'émission La demeure de Montesquieu.
Nous retrouvons Guylain de Diesbach qui est venu nous présenter son dernier ouvrage, Le goût d'autrui, un recueil de portraits anecdotiques, précise l'auteur. Une galerie de portraits qui est riche en couleurs et qui est étonnante puisqu'on y croise à la fois des hommes de lettres, des académiciens, des femmes du monde et des gangsters, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, Guylain de Diesbach. Alors, après ces écrivains, après ces gens de lettres, il y a dans ce recueil des gens qui sont un peu à côté, et donc vous faites un portrait tout à fait hilarant. Je pense à cette empoisonneuse, c'est moi qui la qualifie ainsi, cette madame Fort-du-Jarry, qui est une espèce de Marie Bénard de la Béchamel ou de Brinvilliers de la Nantois.
Innocente.
Racontez-nous un peu un dîner chez cette dame, parce que ça semble incroyable.
Eh bien, son mari l'avait tenue comme une femme de harem en captivité toute sa vie. Et alors, quand Marie est mort, elle a voulu vivre. Et elle avait un hôtel particulier, rue Maspero, je me rappelle, meublé en style transatlantique des années 30. Et elle recevait tous les dimanches soirs. Je ne suis pas allé souvent, parce que j'ai toujours eu pour principe de ne pas aller chez les gens dont je dis du mal. Mais je me suis laissé piéger deux ou trois fois, notamment une fois où Philippe Julien m'a dit « Le dîner est en mon honneur, il faut absolument que vous veniez ». Et alors, le dimanche soir, on rangeait tout. Et puis le lundi, elle commençait son dîner du dimanche suivant. C'est-à-dire avec sa femme de chambre espagnole, sur une assiette, elle déposait deux ronds de saucisson. Le mardi, on s'attaquait aux olives. Le mercredi, on mettait une tranche de jambon. Le jeudi, on mettait une macédoine prise dans des boîtes de conserve, qui est une macédoine atroce. Le vendredi, on ajoutait un œuf, on ajoutait de la mayonnaise. Et enfin, le dimanche, tout était prêt, mais c'était déjà un peu poussiéreux et verdi. Et il y a des gens qui en étaient malades. Henri Sauguet, qui était un homme plein d'esprit, et Henri Sauguet disait, un jour qu'il était invité chez la malheureuse Émilie, il reçoit l'invitation, il dit « Quel malheur, je me portais si bien !» C'est Germaine Beaumont qui disait « On y va en taxi et on en repart en ambulance. »
Ah, c'est un bon mot. Elle était la providence de la maison Borgnole, en fait.
Oui, oui. Et tout ça avec de bonnes intentions. Elle a été généreuse. Elle a laissé, par exemple, des livres qu'elle avait achetés en 1924 à des ventes des soviets de la bibliothèque impériale. Elle les a laissés à bas prix, je crois, à la maison de Balzac, plutôt que de les vendre plus cher aux États-Unis. Il y a quand même des traits. Mais elle n'avait pas l'usage du mot, en ayant été cloîtrée toute sa vie. Et alors, elle avait acheté un vuillard. Et le vuillard représentait une jeune femme de dos. Et elle disait que c'était son portrait. C'était complètement faux, mais tout le monde feignait de croire. Alors, une fois, il y a eu une réception à l'honneur du Cordobès. Le Cordobès était la dernière personne à faire venir dans cette assemblée où il y avait des altesses, des académiciens, des femmes du monde, enfin de tout.
Oui, la sauce.
Et alors, le
bon
Cordobès était complètement perdu. Je me rappelle, j'étais là ce jour-là. Et alors, il a trouvé que les femmes de chambre espagnoles avec lesquelles il pouvait parler, ce qui fait que la maîtresse de maison était furieuse.
Alors, il y a d'autres personnages comme ça dans ce livre, plus parisiens, un peu oubliés aujourd'hui, dont on oublie qu'ils ont été des personnages dans un petit cercle, sans doute, dans un cénacle, assez important, qu'ils ont fait un tour de piste et puis ont tiré leur révérence. Je pense à Jacques de Ricomont, que vous avez bien connu.
Ah, beaucoup, très bien, oui. J'ai connu dès mon arrivée à Paris. C'est lui qui m'a un peu introduit. Il m'a invité avec plusieurs personnes qui, à leur tour, m'ont invité. Et au bout de 2 mois, la machine était lancée.
Alors, vous le surnommez l'accélérateur de particules.
Oui, c'est un nom qu'on lui avait donné. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Parce que quand il était jeune, il tenait un journal. Il était reçu chez des bons bourgeois. Et alors, ça le vexait de penser que son journal, peut-être plus tard, serait lu et qu'il est allé chez M. Durand. Alors, il rajoutait, il était, j'étais reçu chez la baronne de Durand. Et il avait comme ça, petit à petit, anobli beaucoup de ses fréquentations d'avant la guerre. Puis petit à petit, ça fait boule de neige, il a connu des gens, si vous voulez, plus vrais. Mais un de ses amis disait, il préfère voir une fausse duchesse Romanov, par exemple, une fausse duchesse de Russie, plutôt qu'une vraie baronne normande. Un prétendant au trône complètement faux, il avait le goût du titre plus que le goût de la personne.
Alors, il recevait le dimanche, c'est
ça ? Il recevait tout le temps.
Tout le temps.
Tout le temps, oui, oui. Il était très hospitalier. J'ai eu des soirées absolument charmantes. Il avait toujours l'art de recevoir des gens intéressants. J'ai connu beaucoup de gens amusants et drôles. Alors, un jour, justement, chez Ricomont, il y avait Philippe Julien qui n'aimait pas Ricomont. Et alors, subitement, je vois Philippe Julien simuler l'effroi et même la panique, disant « Fuyons, fuyons, il y a une fausse princesse parmi nous.
» Alors, on rit beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, en lisant « Le goût d'autrui ». Et puis, il y a aussi des moments plus émouvants, plus sombres. Je disais que vous faisiez moraliste à la manière des moralistes du grand siècle. Il y a ce portrait étonnant, vous montrez cet Américain arrivé jeune à Paris dans les contingents de la Libération et qui, vieillissant, veut revenir à Paris, Stuart Preston, voilà.
Oui.
Et c'est étonnant, c'est très balzacien cette histoire.
C'est une triste fin.
C'est une triste fin.
Voilà, en croyant qu'il était toujours jeune et beau. Et comme je disais, à l'époque, tous les lits s'ouvraient devant lui, après toutes les portes se fermaient.
Voilà.
Et je l'ai vu traîner comme ça misérablement, mendiant des invitations.
Et qu'est-ce qui avait pu pousser comme ça cet Américain, 25 ou 30 ans après la Libération, à revenir à Paris ?
Quand vous êtes un certain âge, vous voulez revoir la ville où vous avez vécu étant enfant, et ben, vous ne retrouvez rien, c'est fini. Il ne faut jamais revenir sur les lieux de son passé.
Enfin là, c'est saisissant, effectivement. Oui. Il y a un côté crépusculaire.
Buvez beaucoup, alors ça n'améliore pas les choses. Il y a plein de gens comme ça.
Oui. Alors, pour chacun de ces portraits, qu'ils soient légers, pétillants, amusants ou plus sérieux, entre guillemets, on sent chez vous une espèce de distanciation. Il y a une espèce de grande lucidité.
Ah, il ne faut jamais être dupe.
Oui, on sent que vous n'êtes pas dupe.
Un article l'autre jour qui a paru dans le journal du syndicat des journalistes de la presse périodique. Il y avait une petite critique sur mon livre qui était très drôle en disant qu'il Diesbach, content d'appartenir à ce monde, mais n'en étant pas dupe.
Oui.
C'était très fin, comme très final. Et alors, j'ai voulu aussi, dans ce livre, il y a des gens qui ont tout pour eux, sauf l'étincelle qui fait d'eux des gens connus. Et je me dis, c'est injuste. Il serait né. Il y a des personnes qui ont toujours eu une grande réputation parce que l'arrière-grand-père avait fait une fortune colossale, mais eux-mêmes n'avaient aucun mérite. Ou un autre qui descend d'un maréchal d'Empire, mais qui lui-même serait incapable de tenir un revolver. Mais ils ont une aura mondaine du fait de leur nom. Et je trouve que c'est injuste. Il y a des gens qui ont tout pour eux, sauf justement la chose qui aurait permis de les faire connaître, alors que les traits de caractère, le physique quelquefois, la gentillesse, la drôlerie, bon, méritent de rester. Alors c'est là, pour arriver à rendre que des gens qui ne sont pas connus, c'est très difficile. On me disait toujours, quand je faisais mes biographies, mais écrivez sur des gens connus. Mais je dis, écrire une 30e biographie de Marie-Antoinette, ça n'apporte rien. Tandis que trouver un auteur inconnu ou un personnage historique peu connu, mais qui a joué un rôle un peu oublié, il faut essayer de remettre en valeur des gens qui ont eux-mêmes de la valeur.
Alors, vous avez, Guylain de Diesbach, la réputation d'être un homme d'esprit. Vous êtes quelqu'un qui connaissait beaucoup de gens. Et vous montrez dans ce recueil ce que sont vraiment les conversations de ces dîners, notamment de ces dîners où l'on faisait les académiciens autrefois, chez la duchesse de la Rochefoucauld, oui. Par exemple, en 10, 20, 30, 40 ans. Qu'est devenu l'esprit parisien? C'est une légende, une réputation?
L'esprit parisien est mort. Il y a encore quelques gens d'esprit par-ci, par-là, mais il n'y a plus les hôtels particuliers qui permettaient justement de recevoir un jour fixe et d'une manière agréable. Je crois que l'esprit 18e qui s'est prolongé jusqu'à la guerre, c'est un peu terminé.
Ça n'est qu'à votre avis une question de...
Oui, alors je ne connais pas la jeune génération. Oui. Alors je ne sais pas ce qui se dit dans un café. Il y a des réunions de gens de lettres, hein. J'en vois plus beaucoup. Donc je n'ai aucune idée de l'esprit parisien actuel.
Guylain de Diesbach, nous marquons une petite pause et nous vous retrouvons ensuite.
. 1866 est une date clé dans la destinée de Bismarck. La Prusse devient l'Allemagne. Pour Canal Académie, Jean-Paul Bled, professeur à Paris 4 Sorbonne, spécialiste des mondes germaniques, auteur d'une biographie sur l'empereur, nous livre les moments phares de cette année dans l'émission Un jour dans l'histoire. Téléchargez-la sans plus tarder sur canalacademie.com.
Nous retrouvons Guylain de Diesbach, venu nous présenter Le goût d'autrui, le recueil de portraits qu'il vient de publier chez Via Romana, un recueil extrêmement divertissant et amusant où l'on trouve des têtes connues, d'autres qui évoquent un moment, un style, une époque, en tout cas un recueil plein de vie dans lequel, je le disais tout à l'heure, vous faites une espèce d'entomologiste mais plein de compassion pour vos contemporains. Il y a des réflexions très nettes, très vives, mais en tout cas vous ne blessez jamais. On vous sent sensible à ne pas aller trop loin.
Oui, par exemple quand j'ai fait le portrait de Sherban Sideri, qui était un Roumain qui faisait un peu la pluie et le beau temps dans le milieu Noailles, en arbitre des bonnes manières. Eh bien, quand j'ai eu des textes de lui, qu'on m'avait communiqué son héritier, je ne pouvais pas supporter le personnage, mais j'ai été attendri par la tristesse qu'il ressentait de son échec. Alors ça rend le personnage humain.
Alors, en plus, vous le rendez finalement assez sympathique, assez touchant, parce que vous en faites le portrait d'un citoyen des Balkans ou d'un Levantin tel qu'on l'imagine, extrêmement affable, extrêmement empressé, connaissant tout le monde, capable de présenter l'une à l'autre, un peu comme ce personnage qui apparaît, vous savez, à la fin de My Fair Lady, et qui est en fait une espèce de chef du protocole qui va de l'un à l'autre pour essayer de démasquer
oui, mais comme
la connue qui arrive
au bas. Comme tous les étrangers qui réussissent à Paris, méprisant les gens. J'ai beaucoup travaillé sur des papiers étrangers, sur des lettres. Et du moment que les Parisiens acclament et font une place à quelqu'un qui est étranger, surtout venant d'un pays comme la Roumanie, par exemple, qui passait un peu pour encore barbare aux yeux des Parisiens, du coup, ils se trouvent supérieurs. Ils disent, puisque ces gens-là m'acceptent, je peux tout me permettre d'arriver en retard, de dire des choses désagréables. Alain de Noailles faisait ça. Marthe Bibesco, dont j'ai eu tous les papiers entre les mains, Marthe Bibesco trouvait que les Français, en fait, étaient très en dessous d'elle.
Alors, c'est un portrait qui en appelle un autre. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'il n'y a dans ce recueil que des portraits gratins, entre guillemets, puisque justement, vous présentez des gens de milieux très différents. Et il y a une évocation d'un serviteur noir qui s'appelle Samba.
Ah oui,
était
oui,
son
pauvre
vrai nom,
Samba.
Je ne sais pas. Mais un personnage que vous rendez extrêmement sympathique, là aussi. Peut-être pouvez-vous nous le présenter brièvement.
Oui, Samba, c'était un jeune noir qui, au centre de son Afrique, a dû subir des scarifications rituelles. Ça fait affreusement mal, on doit cautériser ça au fer rouge, je ne sais quoi. Il s'est enfui tout nu en hurlant. Il s'est réfugié chez son oncle, qui était le chef de la gendarmerie locale, qui ne savait pas qu'en faire. Il l'a vêtu d'abord par décence. Et puis comme le comte de Paris cherchait un porteur pour ses bagages, il lui a confié Samba. Et Samba est arrivé donc dans les bagages du comte de Paris. Et le comte de Paris, qui ne savait plus qu'en faire, l'a recommandé comme jeune maître d'hôtel, jeune serveur, à la famille de Broglie. Alors il est allé de broye en broye et n'a servi en fait que dans des bonnes maisons, ce qui l'a rendu affreusement snob. Et après, une de mes amies qui l'avait comme maître d'hôtel occasionnel me disait « Il est insupportable, il ne veut pas servir les personnes qui ne sont pas titrées.
» Guylain de Diesbach, je vous remercie. Je crois que vous teniez, avant que nous nous séparions, à présenter l'ouvrage de quelqu'un que nos auditeurs connaissent bien, qui est un de vos amis, je crois, qui est le livre de Jean Raspail, « Les veuves de Santiago
oui. »,
qui est apparu également chez Via Romana.
Ce qui est amusant, c'est que ce livre, qui est un livre de ses débuts, paraît au moment où on réédite son fameux Camp des Saints, qui marche merveilleusement bien. J'espère qu'il en sera de même pour celui-là. C'est un livre de jeunesse et c'est très intéressant comme étude de la mentalité des grands propriétaires terriens, si vous voulez, à cette époque en Amérique du Sud, de mœurs évidemment très relâchées. Les femmes trompent leurs maris, les maris trompent surtout leurs femmes. Mais il y a une chose qui unit tout ce monde post-colonial, dirais-je, c'est l'amour de la terre. On est prêt à faire tout pour sauver la terre. Et alors la terre était menacée par des catastrophes naturelles, mais surtout par les mesures confiscatoires des gouvernements successifs. C'est toujours facile de prendre l'argent là où il est. Et ce qui est assez émouvant, c'est de voir cette femme, qui est la principale héroïne, lutter jusqu'au bout pour garder l'hacienda de la famille. On connaît peu en France, Amérique du Sud, et ça montre les conditions de vie à la fois très traditionnelles, très primitives, à côté d'un raffinement européen qui a été introduit. Et comme étude de mœurs, c'est très intéressant.
Donc réédition des Veuves de Santiago chez Via Romana, les Veuves de Santiago de Jean Raspail. Guylain de Diesbach, est-ce qu'on peut vous demander sur quoi vous travaillez actuellement ?
Je ne sais pas encore. Je crois que je vais rééditer, à la demande de Perrin, mon livre « Les secrets du Gotha ». Ça a paru il y a 60 ans à peu près, presque 60 ans. Il faut le rafraîchir. Et alors, le goût du public pour les people, comme on dit, fait que le livre pourrait peut-être marcher. Alors, je vais peut-être m'y remettre.
Alors, il y a un ouvrage qu'à titre personnel, j'aimerais beaucoup qu'on voit réédité, parce que je le trouve merveilleux, vous en parlez fort peu. C'est un recueil de nouvelles que vous avez publié en 1960 et qui s'appelle « Iphigénie en Turin », qui est une merveille.
Via Romana y pensait.
C'est une merveille.
J'ai les illustrations. Le livre a été illustré par Philippe Julien. Alors j'ai toutes les aquarelles originales, mais alors c'est assez difficile de faire une édition d'un livre aussi ancien avec des illustrations, ce qui donne un coût de fabrication assez élevé. Alors je ne sais pas si on arrivera à trouver une solution. Il faut trouver des acheteurs.
Eh bien, nous lançons l'appel à nos auditeurs. Guylain de Diesbach, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous venez de publier chez Via Romana « Le goût d'autrui », un recueil de portraits, portraits que vous qualifiez de portraits anecdotiques et qui se lit avec énormément de bonheur. Merci beaucoup.
Merci infiniment.